un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrice, auditeur, amis, citoyens, camarades, bonjour. Le studio de Radio Libre en Périgord n'étant pas disponible ce lundi 29 janvier, cette chronique a donc été enregistrée veille, dimanche 28 janvier. Comme je l'ai fait à de nombreuses reprises, je vous propose un texte qui a été publié dans le club de Mediapart, un texte de Jean Bobéro que je soumets à votre réflexion sur un sujet qui est important puisque il a trait à la qualité de l'information et à la véracité des éléments qui sont donnés dans un certain nombre de communications ou d'émissions à la radio, à la télévision. En l'occurrence, il s'agit d'une émission qui a été diffusée sur France 5 et sur laquelle Jean Bobéro porte un jugement tout à fait sévère, mais vous le verrez, c'est du moins mon avis, que je trouve plutôt justifié. Jean Bobéro, tout d'abord, rappelons-le, est professeur émérite de la chaire Histoire et Sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, auteur notamment de plusieurs ouvrages, de Que sais-je, Histoire de la laïcité en France et les laïcités dans le monde, mais également de Laïcité sans frontières, Les sept laïcités françaises, La loi de 1905 n'aura pas lieu, et de très très nombreux articles, contributions diverses et variées. Alors, Jean Bobéro intitule cette rubrique, sa contribution, en France 5, fête de la belle époque en falsifiant l'histoire de la laïcité. Ce documentaire, techniquement très bien fait, et dont le propos général peut apparaître fort séduisant, il met en question la colonisation, les discriminations de genre, réussit l'exploit d'accumuler sur la laïcité un nombre impressionnant de contre-vérités en une séquence de 6 minutes. France 5 a diffusé le dimanche 21 janvier 2024 un documentaire titré « Une si belle époque ». Son architecture tranche avec les émissions d'histoire divertissement à la Stéphane Bern ou Bruno Solo, inconsciemment pour le premier ou consciemment pour le second, amusante. Il s'agit ici de vulgariser pour le grand public cultivé, grâce à des archives iconographiques commentées, le travail des historiens sur la belle époque, dont on veut déconstruire le mythe. Dans un article fort élogieux, Télérama lui attribue 3 T, très bien, et parle d'une franche réussite. Les professeurs et autres personnes s'intéressant à l'histoire peuvent donc croire y trouver une information fiable. Or, dit Jean Bobéro, je suis désolé de jouer le trouble fait, mais les 6 minutes consacrées à la laïcité s'avèrent être une totale falsification. Celle-ci provient d'un mélange entre un petit peu d'historiographie et beaucoup de mémoire légendaire catholico-républicaine. L'émission rend compte de façon fausse et les petits moments pertinents sont rendus incompréhensibles. Donc, l'émission rend compte de façon fausse du processus d'établissement de la laïcité. Il ne s'agit pas d'un simple défaut d'érudition. Je ne relèverai pas approximations et petites erreurs, même si elles contribuent au propos général. Et je suis bien conscient qu'on ne peut avoir un grand niveau d'exigence pour une émission de télé. Mais dans ce cas précis, la falsification est systémique et donne une représentation politiquement mystificatrice. Cela apparaît d'autant plus remarquable que, comme l'enfer, ce documentaire est pavé de bonnes intentions et la mystification qu'il opère semble inconsciente. Cet aspect motive ma réaction, malgré beaucoup de travail en retard. Elle me paraît en effet significative du récit national et de seul obscurantisme, voyons quelques points. Première contre-vérité. Tout à coup, la locutrice annonce en 1902 la République décide que le temps est venu de se séparer de l'Église catholique et immédiatement nous montre le portrait d'Émile Combes, l'érigeant en père de la séparation, fait dans les tuyaux depuis 1869 et sans cesse repoussé. Or, le petit père, c'est ainsi qu'on l'appelait, donc, Émile Combes, le petit père est un anti-séparatiste convaincu. Il suffit de regarder le discours qu'il a prononcé à la Chambre le 26 janvier 1903. Il est partisan d'un catholicisme républicain étroitement contrôlé par l'État et, après avoir dû se rallier à la séparation en septembre 1904 à l'insu son plein gré, il dépose en novembre, un projet de loi pseudo-séparatiste et aussitôt désavoué par la libre pensée pour contrer le projet libéral de la commission parlementaire au travail depuis juin 1903. Bref, l'époque est traversée non seulement par le conflit de France, mais par un conflit intra-républicain dont l'enjeu est, en schématisant, le choix entre une laïcité autoritaire, gallicane, régalienne, et une laïcité libérale, séparatiste, conflit totalement ignoré par le documentaire. Affaire donc de France. Le documentaire prétend que la première étape, c'est le point 2, de la laïcisation à marche forcée, opérée à partir de 1902, concerne l'enlèvement des crucifix dans les écoles publiques et insiste sur les résistances que cela provoque, sans indiquer que ce retrait des écoles, les crucifix dans les écoles, découlait de la loi Ferry de mars 1882, laïcisant l'école publique. Or, le fait qu'il existe encore des crucifix dans certaines écoles publiques au début du XXe siècle prouve non une marche forcée, mais au contraire l'extrême patience des laïcs dans l'application de la loi, provoquant là aussi un conflit interne aux républicains. La circulaire d'application de Buisson, novembre 1882, va d'ailleurs dans ce sens. Et l'incongruité du crucifix dans certaines écoles publiques 20 ans après la loi montre que la laïcisation s'est effectuée très progressivement, avec douceur et en privilégiant le cas par cas. Par exemple, on avait laissé substituer les crucifix dans les écoles fréquentées par les immigrés flamands, tenant compte de leur catholicisme. En 1906-1907, le problème n'est toujours pas résolu. Le téléspectateur, la téléspectatrice, a bien sûr l'impression contraire d'une rupture brutale et complète. Troisièmement, reste qu'il se produit effectivement alors un rebond de la laïcisation. Pourquoi ? Le documentaire ne fournit aucune explication. Le rend donc arbitraire et le met sous le chapeau de la séparation dont l'invocation a débuté la séquence. Le téléspectateur ou téléspectatrice se trouve alors victime d'une triple fabulation. D'abord, ce rebond est en fait engagé dès le tournant du siècle, avant l'arrivée au pouvoir de Combes, car il est une conséquence du rôle très militant des congrégations et d'un catholicisme de combat dans l'anti-dreyfusisme. Or, si le documentaire indique que l'affaire Dreyfus a divisé la France, il ne la relie pas au rebond de la laïcisation et donc lui enlève sa signification. Secondo, ensuite, pour le documentaire, à travers les congrégations, on vise l'enseignement catholique. C'est faux, et au contraire, plus de la moitié des écoles congrégationnistes fermées rouvrent en tant qu'école catholique, modernisant l'enseignement privé. Il existait, certes, des laïcs qui voulaient la fermeture des écoles confessionnelles, mais ils se sont heurtés à Ferdinand Buisson et à Georges Clémenceau. Alors Georges Clémenceau, celui de l'affaire Dreyfus, et non le tigre, le premier flic de France. Donc, ils sont heurtés à Ferdinand Buisson et à Georges Clémenceau, affirmant que la suppression de la liberté d'enseignement irait à l'encontre de la laïcité, ce qu'avait déjà déclaré Hugues Ferry. Dans un célèbre discours au Sénat, novembre 1903, Clémenceau a même tonné contre une possible tyrannie de l'État laïque. Là encore, un conflit a opposé laïcs autoritaires et laïcs libéraux. Les seconds ont gagné et le monopole de l'État laïque sur l'éducation ne fut jamais instauré. Enfin, tertio, le documentaire parle de la laïcisation des tribunaux, précisant que, citation, « les témoins refusent de prêter serment en présence de la croix », sans dire que, justement, les tribunaux n'ont pas été vraiment laïcisés puisque l'obligation du serment devant Dieu, entre guillemets, va perdurer après la séparation. Se fondant sur un relatif renouveau de l'historiographie, datant quand même des années 1960, Le documentaire présente la loi de séparation du 9 décembre 1905 comme la tentative d'un compromis, terme mis en avant par l'historien Jean-Marie Mayer. Compromis entre le fait que l'État va, citation, ne salarier ni subventionner aucun culte, et en échange, entre guillemets bien sûr, va garantir, et je reprends la citation, le libre exercice de toutes les religions. Ce résumé très succinct de la loi est exact, même si, à mon avis, dit Jean Bovéreau, le terme de compromis n'est guère heureux. La loi constitue une victoire conciliatrice et pacificatrice de la laïcité, ce qui est différent. Mais peu importe, puisqu'il s'agit là d'un débat entre historiens. Ce qu'il faut, en revanche, souligner, c'est la contradiction entre l'affirmation d'un compromis en 1905 et l'ensemble de la séquence consacrée à la laïcité qui, elle, met en scène une mise au pas de l'Église catholique. Du coup, cela n'a aucun sens. On n'y comprend plus rien. De plus, il est question des inventaires présentés comme le champ du signe d'un combat déjà perdu. C'est une citation, là encore, par le camp catholique, sans rien dire sur ces divisions internes. La grande majorité des inventaires s'est déroulée dans le calme et mains catholiques ont voté pour les partis laïcs, donnant à ceux-ci une écrasante victoire aux législatives de mai 1906, élection décisive qui constitue pourtant un autre angle mort du documentaire. On comprend d'autant moins le très rapide propos sur le contenu de la loi de séparation que le documentaire cite ensuite la déclaration de René Viviani à la Chambre des députés le 8 novembre 1906. Citation donc de René Viviani. « Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. » Et un peu plus loin, « Ensemble, et d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières, on ne rallumera plus. » Donc voilà donc un propos qui tourne le dos à tout compromis, sauf que brillant. Approuvé par Clémenceau, devenu président du Conseil, le réfute dès le lendemain. L'État laïque doit aux catholiques la liberté de conscience. C'est un récit brillant. L'État laïque doit aux catholiques la liberté de conscience et la faculté d'exprimer en toute indépendance leurs croyances religieuses par des manifestations extérieures. Cet État laïque n'a pas le droit d'être anti-religieux, il est a-religieux. C'est chez Briand, chez Aristide Briand, un propos récurrent, mais aucun de ses discours n'est cité, et le conflit entre laïcs devient une nouvelle fois un point aveugle. De plus, par sa citation unilatérale, le documentaire épouse le seul point de vue des laïcs intransigeants présenté comme l'avènement du droit à ne pas croire, ce qui n'est pas du tout ce que dit Viviani. Tordre ainsi son discours rend une fois encore les choses non compréhensibles. Le discours de Viviani manie l'inflation idéologique pour masquer une mesure conciliatrice, une insupportable concession selon les laïcs intransigeants. En effet, l'ordre donné aux catholiques français par le pape Pie X, encyclique Gravissimo du 10 août 1906, de désobéir à la loi de 1905 aurait dû juridiquement entraîner la fermeture des églises. Or, le gouvernement s'apprête à les laisser ouvertes par le recours à la loi de 1881 sur la liberté des réunions publiques, loi qu'il assouplit pour la rendre applicable aux conditions spécifiques des messes. Or, peu après, le 7 décembre, le pape demande à nouveau aux catholiques de se mettre en dehors de la légalité. Il s'agit cette fois de désobéir à la loi de 1881 assouplie. Le second refus s'avère encore plus important que le premier, car il montre que le pape va entraîner les catholiques dans un rejet de toute la législation française. Pie X veut d'ailleurs provoquer, par ce refus global de la législation, une persécution, entre guillemets, qu'il espère régénératrice. Mais Briand et Clémenceau, on l'oublie souvent, persistent dans la voie conciliatrice. Trois lois sont votées en 1907 et 1908 dans le but explicite de rendre l'Église catholique légale malgré elle. Citation. C'était une citation. Au total, il y a donc eu quatre lois de séparation et aussi quatre niettes de Pie X. Mais de tout cela, on ne saura absolument rien en regardant le documentaire. Pas un seul mot, pas une seule image sur les refus successifs de Rome et sur les trois lois adoptées après celle de 1905. La France devient finalement laïque et restera, et le restera. Et cela marque sa différence avec le monde, conclut la commentatrice donc de cette fameuse émission qui a été diffusée sur France 5 le 21 janvier. La France devient laïque. Il y a donc victoire de la laïcité et pas compromis. Mais cette victoire est conciliatrice, donc pacificatrice, car contrairement au dire du documentaire, elle ne marque nullement ainsi sa différence avec le reste du monde. Bien au contraire, le rapport présenté par Briand en 1905 au nom de la Commission sur la séparation insiste sur le fait qu'il existe des pays où, citation de Briand, le principe de la laïcité et de la neutralité de l'État existe déjà. Et le socialisme modéré, comme on l'appelle le documentaire, comme appelle donc le documentaire Aristide Briand, cite le Canada, les États-Unis, le Mexique, Cuba, trois républiques du Centre-Amérique, le Brésil, plusieurs colonies anglaises, dont la Nouvelle-Zélande, le Mexique notamment, comme pays catholique ayant réalisé la séparation dès 1859 et l'ayant confirmé en 1873, sert de modèle à beaucoup de laïcs lors des débats français sur la séparation. On est aux antipodes de la conception xénophobe d'une laïcité exception française. Bref, ce documentaire, techniquement très bien fait, et dont le propos général peut apparaître fort séduisant, il met en question la colonisation, les discriminations de genre, etc. réussit l'exploit d'accumuler sur la laïcité un nombre impressionnant de contre-vérités en une séquence de 6 minutes. Or, comme dirait l'autre, une contre-vérité, cela va, à la rigueur, plus de 3, bonjour les dégâts. Que s'est-il passé? Son auteur principal, Hugues Nancy, s'est assuré la collaboration d'un spécialiste de cette époque, Dominique Khalifa, qui fut, dans son domaine propre, un excellent historien. Difficile de trier entre ce qui relève de la responsabilité de Khalifa et de celle de Nancy. Peut-être est-ce à Khalifa que l'on doit le zeste de vérité, comme le résumé forcément succinct du contenu de la loi 1905, noyé dans un océan de contrefaçons. D'autre part, une relecture attentive du documentaire montre qu'implicitement celui-ci renvoie à une autre réalité que celle qu'il énonce. Ainsi, les questions du retrait des crucifix dans tous les établissements publics, manière de reconnaître qu'il s'est déjà enlevé dans la majorité des écoles, mais qui va saisir une telle allusion indirecte. La loi de 1905 tente un compromis qui reste insupportable pour l'Église catholique. Peut-être évocation subtile des diktats pontificaux, dont on ne dit pas un seul mot, ce qui permet de ne rien dire non plus sur les trois lois de 1907 et 1908, modifiant la loi de 1905 pour qu'elle puisse rendre l'Église catholique légale malgré elle, pour reprendre la citation. Sans doute, cette stratégie discursive subtile provient-elle de remarques critiques faites par l'historien sur une première version plus balourde. Difficile de le savoir. Peu importe, car l'essentiel est le résultat. Un documentaire qui a mobilisé plus d'argent que n'importe quel chercheur n'en aura jamais sa vie durant pour ses recherches. Cela pour vous raconter des carabistouilles et autres sornettes. Et vous l'avez compris, mon propos ne consiste pas à m'indigner moralement d'un tel documentaire, mais à montrer à travers lui la persistance d'un récit national totalement faux. On le retrouve ailleurs, parfois en pire, y compris dans des instances officielles. Donc, dont le zeste de véracité ne peut faire sens et être compréhensible sur l'événement structurant qu'est la loi de 1905. Cette loi est fêtée chaque année par la Journée internationale de la laïcité du 9 décembre, mais elle est humiliée, piétinée, bafouée par la manière dont on la présente. Cela montre l'ampleur de l'obscurantisme que l'on prétend combattre. Quand il s'agit de laïcité, chacun croit avoir la science infuse et reproduit, véhicule une histoire légendaire d'autant plus forte qu'elle correspond aux intérêts idéologiques des catholiques intransigeants, on a été des victimes, et des laïcs intransigeants, on a mis au pas le catholicisme. Seulement, tant qu'on n'aura pas écouté ce que peut dire une démarche scientifique sur ce qui s'est passé lors de l'établissement de la laïcité, on pourra accumuler loi sur loi, Droit mou, circulaire, note de service, charte, réprimer tant qu'on voudra, on sera Sisyphe, on sera Pénélope, on pourra seulement se donner bonne conscience, l'obscurantiste, c'est toujours l'autre. Alors, en guise de choix musical pour cette chronique, je vous propose en fait un extrait du film La Séparation, dans lequel on revoit sont retracés, gérés tous les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, et notamment la position qui est celle donc qu'exprime le documentaire de France 5 de la vision extrême de la mise en place de la laïcité et la position qui a été adoptée par l'Assemblée dans la loi de séparation. Donc on va entendre successivement la présentation du projet présenté par Maurice Allard et la réponse d'Aristide Briand à cette proposition. Et donc je vous propose tout de suite donc de nous retrouver pour une nouvelle chronique du Prézeler lundi prochain. Merci.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.